Quelle bestiole as-tu choisi ? Il fait frais au lever du jour sur cette berge d'un affluent de la Drôme. L'eau s'agite. Des bulles d'air et des débris de bois remontent à la surface. Je perçois des petits cris étouffés sous l'eau. Est-ce un rat musqué ? Une loutre ? Un castor ? Il faut que je plonge pour vérifier ça de près.
La, 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 la.
Je devine une ombre qui se déplace dans le fond du ruisseau. Elle se dirige vers l'entrée d'une petite grotte creusée dans la berge. C'est de là que vient le bouillonnement.
Bon, à présent, je m'en vais m'occuper de la couchette.
J'entends de nouveau des petits cris étouffés et des grattements qui viennent du fond du terrier. Eh oh, y a quelqu'un ?
Allez, hop, ça, c'est gâté. Ça, ça dégage. Ces fibres sont toutes moites. Du balai !
C'est bien un castor. Il est là au fond de sa tanière, bien au sec dans cette grotte en forme de four à pain. C'est une grosse masse de poils trapus d'environ 1,20 m de long, avec une queue plate en forme de raquette recouverte d'écailles. Son corps est revêtu d'un pelage duveteux et par-dessus d'une longue fourrure dense et soyeuse. Il déblaie un dernier tas de paille de bois moisissant et les expulse hors de son terrier. Oh ! Il se tourne vers moi. Il frétille des vibrisses et des sourcils. Bonjour, monsieur du terrier. Ça sent bon chez vous ?
Normal. J'ai fini mon coup de propre. La litière était sale, humide et pleine de parasites. La changer une fois tous les 15 jours, c'est pas du luxe.
La litière, c'est le lit sur lequel le castor se repose. Si elle sent bon, c'est grâce au castoreum, une substance rougeâtre qu'il sécrète à la base de sa queue. Un produit multifonction qui lui permet d'imperméabiliser sa fourrure, de marquer son territoire, de communiquer avec les siens, voire de détecter si la femelle est enceinte. L'odeur est puissante, mais si agréable qu'autrefois les parfumeurs l'utilisaient pour fixer leur fragrance. Cerise sur le gâteau, le castoreum contient de l'aspirine, ce qui est fort utile pour se soigner quand on vit la plupart du temps dans le froid et l'humidité.
Allez, grouille mon gars. Après la litière à nettoyer, il y a du bois à couper.
Avec ses pattes avant, le rongeur saisit une branche qu'il tire d'un fagot déjà préparé et bien sec. Grâce à ses auriculaires en opposition, il peut la manipuler avec précision. À coups de dents, il déchiquette le tronçon en fibres d'environ 15 cm qu'il dispose en couches pour reconstituer une nouvelle litière et se roule dessus pour l'étaler.
C'était pas un bon matelas, ça. Ma fenotte et mes deux ptios vont être contents. Je m'en vais les retrouver en amont du ruisseau pour les aider à couper du bois.
Le castor file entre mes jambes et sort du terrier par un plongeon. Son corps glisse au ras de l'eau, mu par ses pattes arrière palmées et sa queue qui lui sert de gouvernail. Seul le bout de son museau et ses yeux pointent à la surface. Il descend la rivière sur une cinquantaine de mètres, grimpe sur la berge, puis se dirige tout droit vers un gros saule attaqué la veille et qui commence à ressembler à deux énormes crayons taillés en pointe se tenant par la mine.
Allez, au boulot !
Au pied de l'arbre, le castor se dresse sur ses pattes arrière et s'appuyant sur sa queue, reprend son grignotage. À l'aide de ses quatre grosses incisives, il ronge copeau après copeau ce qui reste à enlever. En moins d'une demi-heure, l'arbre ne tient plus que par quelques fibres. Le tronc déséquilibré commence à pencher.
Timber !
Timber, c'est le cri que poussent tous les bûcherons du monde pour prévenir de la chute imminente d'un arbre. Ce mot anglais signifie aussi le passage de l'état d'un arbre sur pied à celui qu'il devient une fois abattu, c'est-à-dire du bois d'œuvre ou de construction. L'arbre tombé, le castor sectionne les branches et les découpe en tronçons. Une partie lui sert à se nourrir et à user ses dents, qui ne cessent de pousser. L'autre partie est utilisée en bois de construction. Ah ! Voilà la femelle du castor qui arrive avec leurs deux jeunes. La famille castor se répartit autour de l'arbre pour débiter à toute allure la ramure en morceaux.
Bon, parfait. Ça fait un bon paquet. On stockera demain les rameaux et les ramilles dans notre réfectoire en prévision des mauvais jours. En attendant, on va dégager les morceaux les plus costauds pour consolider le barrage. Allez, hop, au travail!
Chacun des castors saisit un tronçon dans la gueule et le tracte en direction du barrage construit à proximité. Malgré leur corpulence assez massive, les castors se déplacent plutôt rapidement. Après plusieurs allers-retours, le tas de bois a bien grossi.
Oh! Bah, il y en a assez. Hé, fiston, passe-moi donc le gros rondin taillé en pointe. Je vais l'enfoncer au coin du barrage qui est un peu faiblard pour le consolider. Ça fuit par en dessous.
Le père castor attrape le rondin, plonge et le plante profondément dans la vase. Puis il retire une grosse pierre du lit du ruisseau pour combler un trou. Le reste de la famille charrie des paquets de boue et des racines pour colmater les interstices et apporte des branches pour compléter l'enchevêtrement. En moins d'un quart d'heure, le point faible est renforcé.
Hey, il faut sans cesse l'entretenir, ce fichu barrage. Mais pour nous, les castors, c'est la routine. C'est du costaud. On peut même y marcher dessus.
Grâce à ces digues qui bloquent l'eau, le niveau s'élève. L'entrée des gîtes est alors inondée et donc camouflée, ce qui préserve les castors des prédateurs. Ces constructions offrent aussi un avantage. Elles créent des zones humides qui attirent toutes sortes d'autres bestioles, génèrent des réservoirs de biodiversité et captent le carbone. Sans le vouloir, les castors luttent ainsi contre le réchauffement climatique et embellissent nos paysages.
Oh non ! Il va pleuvoir ! Rappliquez vite, vous autres ! Le ciel va dégringoler ! Oh, ça sent la batrasse !
Il pleut des cordes. L'eau monte à vue d'œil, transformant le petit ruisseau en torrent boueux. Le castor va et vient nerveusement sur le barrage.
Oh, c'est la crotte ! Oh là là ! Elle va tout bousiller !
En effet, la crue est subite. Elle frappe le barrage de plein fouet. L'édifice vacille.
Allez, au boulot ! Il faut tout colmater !
Toute la famille se lance à l'assaut de la digue, en apportant des branches de toute taille pour consolider et étayer. Ils se donnent à fond ! La poussée des eaux est si forte que le barrage cède partiellement, entraînant dans le fil de l'eau une partie des matériaux de construction. Les castors se précipitent sur la brèche pour réparer les dégâts. Maître Castor, qui traîne dans sa gueule un énorme rondin, glisse et bascule dans l'eau. Il essaie de se rattraper à une grosse branche qui s'arrache.
Oh, Dieu ! J'arrive pas à remonter ! Le courant est trop fort ! Il m'entraîne !
La crue torrentielle ne cesse de gonfler, déborde de tous les côtés. Le père Castor est emporté par les flots. Les rescapés sont tétanisés.
Continuez le travail ! C'est le plus important !
Le ruisseau se déverse dans une rivière encore plus puissante qui happe la bestiole dans ses tourbillons. Son corps remonte à la surface, puis disparaît à nouveau. Il n'essaie pas de lutter, mais se laisse dériver vers le rivage grâce à sa queue gouvernaille.
Ah, je vais pas me laisser faire ! Foi de castor !
Le courant semble relâcher sa pression, mais le castor a disparu. Ah non, ça y est, je l'aperçois. Il a profité de la relative accalmie pour s'agripper à une racine qui sort de la berge. Le voilà sauvé. Il parvient à grimper hors de l'eau.
C'était pas gagné. J'ai cru que j'allais me noyer.
Le rongeur s'ébroue de la tête aux pieds pour sécher ses poils.
Bon, ben c'est pas le tout. Maintenant, faut que je me repère.
Le castor se dresse sur ses pattes arrière et observe les environs, narine en l'air.
Il y a qu'à remonter la rivière en sens inverse. Je vais bien finir par retrouver mon ruisseau.
De sa démarche balourde, le castor se met en route. Il longe le bord de la rivière. De temps à autre, il s'immobilise et, grâce à son flair, explore son territoire.
Tiens, je le connais ce coin-là. L'odeur du castoreum, ça trompe jamais. J'avais un ancien terrier par ici, un refuge que j'ai dû abandonner. On est sur la bonne piste.
Le voici arrivé à la confluence de la rivière et du ruisseau. Il s'arrête à nouveau pour s'orienter. Il repère une nouvelle odeur.
Alors là, y a plus à discuter. C'est bien mon ruisseau. Je sens même l'odeur de ma femelle. On n'est plus très loin.
Comme le courant s'est atténué, le castor se laisse glisser dans l'eau et remonte le ruisseau à la nage. Il file rejoindre le barrage.
Dans l'eau, je suis plus à mon aise. J'y arrive. Je vois le barrage droit devant. Il est encore debout.
Sur la digue, les deux jeunes et la mère se dressent, le nez au vent, les moustaches frétillantes. Ils sautent de joie en découvrant leur escapée.
Bravo! Ils ont pas chômé la famille. Oh, ma parole! Ils ont tout rafistolé en une nuit. C'est pas le tout, mais maintenant, faut vérifier si notre terrier n'a pas été endommagé par la crue.
Salut, maître Castor!
Salut!
Ah ouais, il est déjà parti au boulot. Au cours de cette aventure, nous avons entendu le castor crier pour alerter sa famille au moment où il fait tomber un arbre. Quel mot utilise-t-il pour prévenir de la chute d'un arbre ? Tombeur ? Flambeur ? Ou timber ? Bravo! C'est bien le mot anglais « timber » que tous les bûcherons utilisent pour prévenir de la chute d'un arbre. Cette aventure était tempétueuse, mais surtout, bestiolement, géniale!
La, 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 la.
Bestiole est un podcast original de France Inter en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle.